7-9.
Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le lundi 11 octobre. Bonjour Anaïs Feugard.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la France qui renoue avec la victoire. La folle finale des Bleus, vainqueurs hier de la Ligue des Nations, 2-1 contre l'Espagne. C'est de bon augure à un an du Mondial. On voit ça Anaïs après les autres titres.
La rue polonaise drapée de bleu, 100 000 manifestants à Varsovie hier soir pour dire son attachement à l'Europe. L'événement politique et économique de la semaine, le plan d'investissement France 2030 dévoilé demain par Emmanuel Macron. Et puis Marseille à la pêche, aux déchets une semaine après les inondations.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous Léa.
C'est le symbole de Paris, c'est l'un des monuments les plus connus du monde. Mais au fait, quelle était la vie du génial créateur de la tour du même nom, Gustave Eiffel? Eh bien, elle était passionnelle. C'est ce qu'on voit dans le film.
Ça vous plaît.
Oui, absolument. Dans le film à gros budget Eiffel qui sort cette semaine, film événement, Romain Duris est Gustave Eiffel, il sera avec nous à 7h50.
A tout à l'heure Léa, à 8h20, le grand entretien de la matinale avec le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, qui dialoguera avec vous et répondra à toutes vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter.
Personne ce matin ne va bouder son plaisir quand l'équipe de France de football brandit une coupe. Certes, ce n'est pas la coupe du monde, pas même l'euro, mais c'est un trophée. Et à un an du mondial de foot, ça fait du bien aux Bleus, vainqueurs hier de la Ligue des Nations à Milan, en renversant la vapeur face à l'Espagne pour l'emporter 2-1. Trois ans après le titre mondial, Cédric Guillou, les Français effacent le fiasco de l'euro.
Des scènes de joie, des sourires, la coupe qui passe de main en main. La France est redevenue durant cette Ligue des Nations une équipe qui gagne. Trois mois après sa déconvenue lors de l'Euro, le sélectionneur Didier Deschamps.
La meilleure vitamine, ils le savent, c'est gagner des titres. Et il y en avait un en jeu, on a tout fait pour le gagner. Et je suis très heureux pour l'ensemble du groupe qui était là sur ces deux matchs.
Alors c'est sûr, la Ligue des Nations n'a pas la valeur d'une Coupe du Monde ou d'un championnat d'Europe, mais il faut savourer ce retour des Bleus au premier plan pour Dylan, supporter de l'équipe de France, dans les tribunes de San Siro hier soir.
On s'en fout, c'est la deuxième compétition internationale qu'on prend sur les trois dernières, donc on kiffe et eux aussi prennent du plaisir, donc c'est parfait.
Le milieu de terrain des Bleus, Paul Pogba, s'est également régalé de cette communion retrouvée avec les supporters.
On a ramené la médaille, le trophée à la maison, la médaille, elle est aussi pour vous.
Ce nouveau succès de l'équipe de France arrive aussi à un peu plus d'un an de la prochaine Coupe du Monde au Qatar, ce qui fait dire à Robin, lui aussi présent hier soir à Milan.
Au Qatar, ce sera pour nous. C'est sûr et certain, on aura la troisième étoile et voilà, elle sera pour nous.
Didier Deschamps et les Bleus pourraient assurer leur qualification pour ce mondial dès le 13 novembre en battant le Kazakhstan au Stade de France.
Mais on retiendra d'hier aussi le duo de choc, Kylian Mbappé passeur puis buteur et Karim Benzema auteur de l'égalisation et que certains voient déjà ballon d'or dans moins de deux mois.
Il est 7h03, un immense drapeau bleu frappé des 12 étoiles dorées, tendu à bout de bras dans la nuit polonaise.
La réaction de la rue en masse hier soir pour dire son attachement à l'Union Européenne, car non, la Pologne n'est pas d'un seul bloc. Après la décision de la Cour constitutionnelle la semaine dernière contestant la primauté du droit communautaire, l'opposition libérale craint la première étape d'un pôle exit. Elle a donc pris la tête hier de la mobilisation des manifestations dans plus de 100 villes et villages de Pologne et 100 000 personnes à Varsovie. Le reportage de Damien Simonard.
Sur la place du Château Royal, Donald Tusk est salué en héros par une foule de manifestants armés de drapeaux européens. Désormais à la tête de l'opposition, il critique violemment la récente décision du tribunal constitutionnel polonais.
Un pseudo-tribunal, un groupe de personnes déguisées en juges, sur ordre du président du parti au pouvoir, violant la constitution polonaise, a décidé de sortir notre pays de l'Union européenne.
Dans la soirée, sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Mateusz Morawiecki écrit que le pôle exit est une fake news inventée par l'opposition à des fins politiques. Diana, 47 ans, a roulé 350 km pour manifester dans la capitale. Malgré les garanties du pouvoir de vouloir rester dans l'UE, elle n'en croit pas un mot.
Ces gens au pouvoir promettent beaucoup de choses. Malheureusement, tout ce qu'ils disent est faux. Ils parlent de démocratie et de la constitution qu'ils bafouent. Ils piétinent les droits des minorités et ils montent les citoyens les uns contre les autres.
Pour Donald Tusk, cette grande mobilisation et la présence de plusieurs leaders d'opposition à ses côtés ouvrent désormais une nouvelle porte. Créer un front commun autour des valeurs européennes pour battre le PiS aux prochaines élections prévues dans deux ans. À Varsovie, Damien Simonard pour France Inter.
Première réaction publique du président algérien au propos d'Emmanuel Macron sur la rente mémorielle, et elle ne va pas dans le sens de l'apaisement. « Nous sommes agressés dans notre chair, dans notre histoire, dans nos martyrs », lui répond Abdelmadjid Tebboune, qui accuse par ailleurs le ministre français de l'Intérieur, je cite, « de gros mensonges ». Il n'y a jamais eu 7000 Algériens expulsés. Selon lui, la France en a évoqué plus de 94. Explication dans le journal de 8h. Les élections en Irak, taux de participation le plus faible depuis des années pour ces législatives, 41% hier. Les premiers résultats sont attendus aujourd'hui. En Europe, ce matin, une offensive de 10 États membres de l'Union pour soutenir le nucléaire. Une même tribune publiée aujourd'hui dans plusieurs journaux européens. Parmi les signataires, la France d'Emmanuel Macron, qui a toujours défendu la filière, demande à ce que l'atome soit inscrit dans la liste européenne des énergies vertueuses. Le nucléaire, qui figurera en bonne place du plan d'investissement France 2030, présenté demain par l'Élysée, après l'absorption du choc de la crise, le plan de relance, vient donc le temps de construire les filières de demain, Maxime Debs.
Pour faire simple, trois axes se détachent a priori pour ce nouveau défi, nous souffle une voix en coulisses. D'abord, encourager la R&D, la recherche et développement dans des innovations de rupture, autrement dit des technologies que l'on ne connaît pas encore pour tenter de prendre un coup d'avance sur les autres pays. Ensuite, poursuivre la décarbonation de l'économie. On sait le faire aux deux tiers aujourd'hui. Il nous faut trouver des solutions pour le tiers qui reste, souffle un membre du gouvernement. L'hydrogène, les avions, les voitures zéro émission. Il faut accompagner ce mouvement-là, aller plus loin, plus fort, quitte à privilégier un nucléaire qui fait débat. Le tout sans oublier de former les salariés, les ouvriers français qui demain permettront cette transition et rendront possible cette ambition pour la France. Le plan intègre aura un volet compétences important qui ne souffre d'aucune discussion, confirme un conseiller, car forcément, faire tourner les usines dans 10 ans demandera d'avoir des équipes et contremaîtres à l'aise avec les nouveaux outils, sans quoi ça ne pourra pas marcher.
Pas de chiffrage pour l'instant de ce plan, mais des annonces qui pourraient se teinter de programme présidentiel le temps venu, car dans toutes les têtes, le compte à rebours a commencé. Dans 6 mois, jour pour jour, nous entrerons dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, le duel décisif. Combien sont-ils sur la ligne de départ? Plus de 40 personnalités politiques pour l'instant, mais le Conseil constitutionnel attend les 500 parrainages pour les valider et les élus locaux sont en première ligne, Maxence Lambrecq.
La pression s'accentue de jour en jour sur les 42 000 élus susceptibles de signer le précieux formulaire.
Ah oui, il y a du phoning, il y a des délégués qui viennent dans les communes, souvent les plus petites ou celles qui sont pas trop identifiées.
Alain Chrétien, maire de Vesoul.
Mais effectivement, ça commence à turbuler et chacun reçoit soit des SMS, soit des lettres, soit des visites personnalisées.
Avec surtout pour cible les maires sans étiquette, comme Jean-Louis Roger, maire de Sucé-sur-Erdre, près de Nantes.
Au mois d'août, je crois que c'est début août, je crois que le premier que j'ai reçu, moi, c'est Philippot, qui avait envoyé sa profession de foi avec des explications et tout.
C'est la guerre des parrainages entre Florian Philippot, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau, tous sur le même créneau avec cet argumentaire.
Tous, ils nous disent que ce n'est pas un engagement politique d'apporter un soutien, c'est favoriser la démocratie et le droit de l'expression à tous. Enfin voilà, bon après il faut savoir mesurer.
Mesurer l'impact d'un tel choix, puisque depuis 2017, tous les parrainages sont rendus publics et pour lui, pas question de soutenir un petit candidat.
Ils savent bien qu'ils ne feront pas de score, donc quel est l'intérêt, si ce n'est que de se montrer et d'exister dans la rue, quoi.
Le député Jean Lassalle, comme la présidente du parti animaliste Hélène Thuy, n'ont qu'une date en tête, le 4 mars, date limite pour le dépôt des parrainages.
C'était une municipale partielle sous haute tension à Trappes, dans les Yvelines. Ali Rabé, un proche de Benoît Hamon, a été réélu hier avec plus de 58% des voix et une participation en hausse. Son élection à 161 voix près avait été invalidée en 2020.
Il est 7h09, ce sera sans doute l'un des thèmes de la campagne présidentielle, Anaïs. Le pouvoir d'achat.
Avec une inflation à plus de 2%, remplir son caddie coûte de plus en plus cher et c'est surtout vrai avec les produits frais. Des légumes, 11% plus chers qu'il y a un an. Les fruits, eux, ont augmenté de 4%. Ça s'explique, Agnès Soubiran, les producteurs répercutent leurs coûts.
Hausse du prix des matières premières, hausse du prix de l'énergie, hausse du prix des emballages et difficultés de transport, tous les voyants sont au rouge en ce début d'automne. Damien Lacombe est producteur de lait en Aveyron et président de Sodial, la première coopérative française qui fournit notamment Candia et Entremont. Il estime que les surcoûts cette année pour une exploitation moyenne atteindront 7 à 8 000 euros, impossible à absorber pour les producteurs.
Avec des plastiques qui ont augmenté de plus de 50%, des cartons qui ont augmenté de plus de 20% et l'énergie aux alentours autour de 30%, donc des hausses massives tout au long de la chaîne. De manière impérative, il faudra que ces hausses puissent être répercutées jusqu'au consommateur. C'est le seul moyen de faire en sorte qu'on puisse rémunérer tous les adhérents de la coopérative.
Sodiaal réclame donc une hausse du prix de vente du lait de 5 à 7%, ce qui représenterait en moyenne un surcoût de 4 euros par famille et par an. Une hausse modérée et qui arrive, insiste Jean-Philippe André, président de l'Association nationale des industries alimentaires, après 7 ans de déflation.
Là, on est arrivé au bout d'une logique économique. Et je dis, dans le monde alimentaire, on a 15 000 entreprises. Ces entreprises sont également concurrentes entre elles. Et vous imaginez bien que personne ne veut faire des hausses trop fortes de manière à ne pas perdre des avantages compétitifs par rapport à leurs concurrents.
Cette variation des prix de production et sa corrélation avec les prix de vente sera sans aucun doute au cœur des discussions à venir entre producteurs et grande distribution.
Et demain, le décret interdisant les emballages plastiques sera publié au Journal officiel. Les précisions à 8h. C'est l'une des répercussions de l'onde de choc de la commission Sauvé, rendue publique il y a moins d'une semaine. Cet appel à la démission collective des évêques français, lancé ce matin par la théologienne Anne Soupa, la directrice de Témoignages Chrétiens Christine Pedotti et François Deveau de La Parole Libérée. Seul geste, selon eux, à la mesure de la catastrophe et de la perte de confiance. Marseille et ses monceaux de déchets, une semaine après les inondations monstres qui ont charrié des tonnes de poubelles jusqu'à la mer. L'association Mer Veille a envoyé hier des dizaines de plongeurs à la pêche au détritus à l'escale Borély. Une opération de nettoyage quasi hebdomadaire. Mais hier, Clémentine Sabrier, l'état de la rade de Marseille était plus qu'alarmant.
Loïc sort de la mer en combinaison de plongée. En quelques heures, il a rempli une benne.
J'ai ramassé des pneus, il en reste encore une dizaine. De l'électroménager, des sacs plastiques, des canettes, plein de Capri Sun, c'est un fléau, on en voit plein.
Jean-Pierre y est carrément allé avec les bouteilles d'oxygène. Ce qu'il a vu au fond de la mer, c'est un désastre écologique.
C'est encastré, ça a envahi tout, ça s'est accroché sur la vie, sur les loturies, sur les oursins. Et dans les infractuosités de la digue.
Une situation aggravée par les intempéries survenues juste après la grève des éboueurs, mais pas du tout exceptionnelle, selon le responsable de l'association Merveille, Floris Cézanneau.
Ça arrive régulièrement qu'on trouve sur ces sites-là beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets. Donc il y a peut-être un peu plus que d'habitude, mais il faut penser que la problématique, elle est annuelle, elle n'est pas ponctuelle.
C'est pour ça que l'association organise des ramassages sous-marins toutes les semaines. Pour Floris Cézanneau, une seule solution.
Il faut vraiment arrêter de produire ces déchets.
Notamment les emballages plastiques alimentaires omniprésents au fond de la rade de Marseille.
Clémentine Sabrier, France Bleu Provence. La vaccination contre le Covid-19 réduit de 90% le risque d'hospitalisation et de décès chez les plus de 50 ans. Résultat d'une vaste étude française publiée aujourd'hui. Les élèves de primaire de 21 nouveaux départements peuvent, eux, tomber le masque ce matin. Lundi matin, encore un matin, si vous voyez ce que je veux dire, Nicolas. Les 70 ans de Jean-Jacques Goldman et cet appel lancé par un fan de la Côte d'Azur, chanter et applaudir ce soir à 20h pendant 7 minutes à voir si l'initiative sera suivie.
Merci Anaïs Feugat. Le Zoom dans 3 minutes, ouverture d'un procès historique à Ouagadougou, 34 ans après la mort du président Thomas Sankara.